On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une brute sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 2 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 20, le conseil de vie de classe en collège. Est-ce que les états émotionnels des élèves peuvent rester à la porte de la classe? Peggy, enseignante de collège à l'Homme, a sa réponse. C'est non. Avec la météo du jour, son cerveau de la parole, sa boîte à bonheur et sa boîte à problèmes, Peggy a construit un cadre pour permettre à ses élèves d'adresser les tensions sous-jacentes, d'exprimer leurs émotions, ainsi que d'appréhender celles des autres.
Allez, c'est parti, le gel.
Bonjour.
On va poser les... On va poser les sacs en fond de salle.
On fait la météo, madame.
Et on fait la météo.
Bonjour, Peggy.
Bonjour, Nathalie.
Oh, non, mais hey, ça fait combien de temps que tu es mentor être prof?
Bah ouais, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans.
Enfin, j'ai eu la chance de rentrer dans ta classe. Merci de cette confiance. Alors, comment tu nous présenterais, en quelques mots, cette pratique de conseil de vie de classe?
Pour moi, le conseil de vie de classe, c'est un moment de partage qui peut être axé autour de 3 grandes thématiques. Des choses positives à partager ensemble, des problèmes à partager ensemble et des propositions que les élèves peuvent faire et sur lesquelles on va discuter. C'est un temps d'échange qui est fait pour mieux se connaître aussi et puis pour régulariser certains fonctionnements.
Ta source d'inspiration sur ce sujet?
C'est un des dispositifs qui est proposé dans le cadre des classes collaboratives et ça m'a fait rapidement de l'œil.
Bonjour.
Bonjour.
On fait la météo, on va poser les sacs en fond de salle, s'il vous plaît.
D'accord.
Bonjour Lilou. Bonjour Johan. Ça va Léa?
Tu nous racontes ce qui se passe là, au moment où ils rentrent dans la classe?
Alors, donc, les élèves arrivent et au tableau est accrochée une feuille plastifiée sur laquelle se trouvent 6 sentiments. Je suis inquiet, je suis content, je suis en colère, je suis confiant. Et donc, en dessous de chaque sentiment, il y a des petites cases. Ils ont un stylo Velleda qu'ils se passent et ils cochent pour dire comment ils se sentent au moment de leur arrivée en cours. Parfois, je jette un coup d'œil rapide et ça me donne le pouls de la classe, on va dire, le pouls global. Parfois, je prends un petit temps de débrief en disant, voilà, certains sont tristes aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent échanger? J'ouvre la possibilité, les élèves s'en saisissent ou non.
Aujourd'hui, pour la première heure, on fait quoi? Le conseil de vie de la classe.
Qu'est-ce qui cadre cette pratique?
On arrive en classe, on enlève toutes les tables et on fait un grand rond avec les chaises pour que la parole puisse circuler et qu'on puisse tous se voir.
Donc pour faire le conseil de vie de la classe, qu'est-ce qu'il nous faut?
Ranger les tables.
Ranger les tables. Donc il faut pousser les tables comme on fait d'habitude sur les côtés et faire un rond avec les chaises. Action, réaction.
Les premières fois où tu leur as proposé de déconstruire la classe, c'est-à-dire pousser les tables, mettre les chaises en rond, ça s'est passé comment?
Dans un joyeux bordel.
Merci pour cette réponse.
Allez, on fait un grand cercle. Ok, c'est bon? Décalez-vous un petit peu par là. Allez. Est-ce que c'est bon?
Oui.
Tout le monde a trouvé une place convenable, Lila, mets-toi avec nous.
Et puis dans la classe, il y a en permanence une boîte du conseil de vie de la classe qui est répartie en 3 zones. Petit bonheur, problème, proposition. Et donc ces élèves ont la possibilité, quand ils le souhaitent, d'alimenter cette boîte. Et donc quand on arrive au conseil de vie de la classe, ben on prend la boîte et on choisit ce qu'on va traiter en premier, on en sort quelque chose et on en discute. Nous, on a décidé de cadrer, enfin moi, j'ai décidé de cadrer ça en une heure, mais parce que bon, je suis professeure en collège, donc déjà les cours c'est 55 minutes. Une fois tous les 15 jours.
Alors, il nous faut quoi pour faire notre conseil de vie de la classe ? Notre cerveau de la parole. Je vais aller chercher.
Il y a un truc, moi, que j'adore, le cerveau de la parole. Ça change du bâton de parole. Tu nous racontes, tu nous expliques pourquoi ?
Alors, c'est à la fois impromptu et pas tant que ça. C'est-à-dire qu'avec cette classe et l'équipe pédagogique de la classe, je mène un projet autour des sciences cognitives. Et donc, j'ai du matériel pour animer des séances de vie de classe spécifiquement dédiées à ce projet, y compris des cerveaux. Et la première fois qu'on a fait le conseil de vie de la classe, évidemment, je pensais bâton de la parole. Mais en réalité, je n'avais absolument pas prévu le truc et je n'avais rien qui pouvait faire office, sauf peut-être une pauvre règle et je ne trouvais pas ça très adapté. Et mes petits cerveaux étaient là à disposition et je me suis dit, mais on fait le lien entre le projet CogniClass et puis ces conseils de vie de la classe et donc c'est devenu le cerveau de la parole. Voilà.
Vous vous rappelez la règle ? C'est quoi la règle avec Imen, s'il te plaît ? C'est quoi la règle avec le cerveau de la parole ? Vas-y,
Dès qu'on a le cerveau, on parle.
Voilà, pour parler, il faut l'avoir dans les mains. On se le passe les uns les autres, on se le passe pas comme une brute, d'accord ? Le but du jeu, c'est pas de se le recevoir dans la tête. Ok, ça va ?
Oui.
Ok. Alors, la première chose, quand on est arrivé, on a fait la météo des émotions, comme on fait tous les jours maintenant, d'accord ? Et ça tombe bien. Parce que dans la boîte à bonheur que nous avons, il y a quelqu'un qui dit « j'aime bien la météo des humeurs ». Alors, à quoi elle nous sert cette météo ?
C'est pour savoir comment les gens de la classe vont, leurs humeurs, leurs...
Ok, c'est pour ça, oui, t'as raison. Mais alors, à quoi ça nous sert de savoir ça ? Tu donnes à Imen ?
Ça sert à savoir l'humeur des différents élèves et savoir comment se comporter avec.
Ouais, exactement, savoir comment interagir avec.
Tu les mobilises sur les émotions qu'ils ont partagées en entrant dans la classe. Ils font des retours incroyables et notamment, on entend savoir se comporter avec les émotions des autres. Quelle réponse, mais quelle conscience dans cette classe et de la part de tes élèves. Est-ce que c'est quelque chose que tu as senti se développer ou ils sont arrivés avec ?
Non, ils ne sont pas arrivés avec. C'était une classe où il y avait pas mal de conflits internes, assez levés, qu'on pouvait entendre en cours de récréation, dans les temps extra-scolaires, entre guillemets. Et de fait, le fait de faire la météo des émotions, d'en discuter, le fait aussi que moi, je dise parfois comment je me sens, ça crée la possibilité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre la problématique de l'autre, de pouvoir exprimer sa propre problématique à l'autre, et donc du coup de mieux vivre ensemble.
Si on voit que toute la classe est inquiète, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Les détendre, leur dire que et leur demander aussi pourquoi ils sont inquiets, etc.
Ouais, on peut en parler, on peut essayer de trouver quelque chose qui soit plus détendu comme activité, effectivement.
Les rassurer.
Essayer de les rassurer, on peut faire ça. Alors là, par exemple, je vois qu'aujourd'hui, particulièrement pour cette heure, tout le monde est content, se sent bien et super motivé. Vous avez envie de partager pourquoi ? Pourquoi vous vous sentez aussi bien, aussi content, aussi motivé ?
Parce qu'il y a du soleil.
Et à moi, ça me permet quoi, Madame Chrétien, votre professeure, de faire la météo tous les jours ? Vas-y, Chahinès.
Savoir comment s'y prendre avec lui.
Et oui, ça veut dire que peut-être je vais adapter des choses, d'accord ?
Par exemple, le travail.
Par exemple, certaines choses du travail. Si je vois qu'un élève est énervé ou pas bien, etc., peut-être je vais, ce jour-là, pas lui demander exactement les mêmes choses qu'aux autres, parce que ce jour-là, c'est un peu spécial.
Tes élèves savent très bien dire pourquoi ça t'est utile d'entendre leurs émotions. Et toi ? Tu nous dis en quoi ça t'est utile ?
Moi, ça m'est utile parce que... Alors, ça m'est utile d'un point de vue global, parce que déjà, ça me donne une coloration de la classe. Et si je vois qu'il y a 6-7 élèves qui disent qu'ils sont en colère, par exemple, Je vais me dire, oula, il y a peut-être un truc à dégonfler. Et là, je vais vraiment prendre les 5-10 minutes du cours au début pour dire, ok, il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut le régler vite fait, mais est-ce qu'on peut le régler quand même? Ça me donne aussi des indications personnelles sur certains élèves, parce que ce jour-là, il se passe quelque chose pour eux. Et même s'ils ne veulent pas forcément le dire, le fait qu'ils expriment leur émotion à travers le tableau, bah, ça me permet de me dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'est pas très dans l'activité, je vais pas être trop sur son dos et je vais le prendre plus en douceur. Ou... Donc je vais adapter mon attitude en fonction de ça. Et moi, je vous donne mes humeurs ?
Non.
Non ?
Si.
Si,
mais on
ne
sait pas.
Ah, si.
Ah, je dis pas tout le temps, c'est vrai. C'est intéressant ou pas ?
Oui.
Pourquoi ça, vous, ça vous apporte quoi ? Peut-être rien, j'en sais rien. Lola ? Vas-y, Lola.
De savoir comment faut aussi être, si avec, faut être calme avec vous, s'il faut être plus, plus détendu, plus sérieux, plus comme ça.
Donc ça permet à ce qu'on arrive tous ensemble à interagir.
À s'adapter.
À s'adapter les uns aux autres.
Tu ouvres la boîte du conseil.
Alors, on commence notre boîte à conseil de vie de la classe ?
Oui.
On est OK ? Avec grand plaisir. Ah bah ça fait plaisir à entendre. Vous vous souvenez qu'on a trois espaces, d'accord ? On a l'espace boîte à bonheur, on a l'espace boîte à problèmes et on a l'espace boîte à propositions. Aujourd'hui, vous voudriez plutôt commencer par quoi ?
Bah, moi, je voulais commencer par la boîte à problèmes, comme ça, on pouvait garder les meilleurs pour la fin.
Bah comme ça, on commence sur la boîte à problèmes, comme ça, après, on part, on est content.
Parce que on est content pourquoi ?
Ouais, parce qu'on a fini par la boîte à bonheur.
Donc on part sur la boîte à problèmes ?
Oui.
Allez, c'est parti.
Tu commences par tirer un problème qui est une question de conflit entre deux élèves.
Donc c'est Léa qui a dit « J'ai un problème avec Kylian en art plastique. Il m'a demandé une feuille, j'ai dit non. Et il m'a lancé ma trousse sur le torse, j'ai eu mal et je voudrais que ça s'arrange. »
Est-ce que tu as une méthode, une méthodo pour gérer les conflits dans ta classe ?
Aucune.
Aucune. Tu le fais à l'intuition.
Exactement. Si ce n'est que la seule méthode que j'ai, c'est de sortir de « c'est pas moi, c'est pas elle, c'est moi », etc. Ce qui est en général très facile parce que un mini problème concerne rarement deux élèves. Je pense que ce problème-là, entre Léa et Kylian en ce moment, c'est peut-être pas le seul problème qu'on peut trouver dans la classe, d'accord ? Donc ça va peut-être nous faire réfléchir un peu plus largement. Alors, elle est où Léa ? Elle est là. Quelqu'un veut bien lui donner le cerveau ? De la parole ?
En fait, comme j'ai mis sur le papier, genre il m'a lancé la trousse et genre ça m'a pas plu.
Alors maintenant, on va écouter Kylian.
C'est pas vrai parce que j'ai juste demandé une feuille, elle a fait 15 toiles, elle m'a lancé la trousse, donc je lui ai rendu la trousse. Mmh. Et après, elle arrête pas de m'insulter. Tout.
D'accord. Il s'est passé un truc qui a créé une situation problématique dans la classe, entre vous ?
Ah oui, peut-être, ouais. C'est en art plastique, ça lance des gommes aussi, des fois.
Mmh.
Et
écoute, c'est très intéressant.
Donc elle croit que c'est moi à chaque fois, je lui dis c'est pas moi, ça vient d'un côté. Et après, elle dit non, je te crois pas et tout, et après ça commence.
C'est parti de là, Léa ? Cette histoire de bout de gomme ?
Oui.
Donc c'est parti de cette histoire de bout de gomme, et ça s'est envenimé. Alors peut-être que la solution, c'est de parler de quoi, finalement ? Est-ce que ça concerne que Kylian et Léa, cette histoire ?
Non.
Chut, on peut lever la main, Mohamed Saïd, vas-y, à toi.
Ça concerne aussi les lanceurs de gomme.
Les lanceurs de gomme, est-ce qu'on peut parler de ça ?
Il s'avérait qu'un élève aurait jeté une gomme sur une autre élève de la classe, et finalement, en discutant avec eux, on s'est très vite aperçu que c'était bien plus globalisé que ça et que plein d'élèves s'envoyaient plein de bouts de gomme durant toute l'heure de classe.
Bah oui, on peut parler de ça. Faut pas lancer la gomme au cours d'art plastique.
D'accord, faut pas lancer. Alors, on peut toujours se dire plein de principes, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, mais en fait, vous le faites.
Bah oui, c'est ça le problème.
Quelqu'un veut intervenir là-dessus ? Vas-y, Imen.
Je voulais pas trop le dire, mais enfin là, vu qu'on en parle, je vais le dire. Enfin, Léa, c'est pas la seule à recevoir des bouts de gomme, en fait. Parce que moi et Maïssa, on est devant. Enfin, devant la classe.
Dans la salle ?
Oui. Et nous aussi, on reçoit des bouts de gomme.
Bah, il n'y a pas que des gommes qui sont lancées, il y a aussi des crayons, il y a plein de choses qui sont lancées.
La dernière fois, c'était pendant tout le cours d'art plastique, il y a eu des bouts de gomme. Et oui, pas que des bouts de gomme, des bouts de carton, papier, stylo, et on en a reçu sur notre table. J'ai regardé derrière ma chaise, il y avait toute une pile de trucs comme ça.
Là, on est entre nous et on soulève un problème. En cours d'art plastique, il y a des matériels qui volent partout. Il y a des élèves qui s'en prennent dans la tête. Ça crée des histoires entre vous, de tensions, etc. Mais il y a forcément des élèves qui font ça. On est d'accord, dans la classe. Alors, est-ce que là, on pourrait tranquillement se dire, sans punition, sans rien du tout, oui, moi, je le fais, et qu'on puisse comprendre pourquoi les élèves, ils le font, et comment on peut trouver une solution ensemble pour que ça se passe autrement. Alors, Mohamed.
Moi, en début d'année, j'avais lancé une gomme sur Léa parce qu'elle était vraiment vulgaire avec moi. Mmh. Je lui ai dit arrête, elle voulait pas, bah, je lui ai lancé une
bout de
gomme.
Donc, tu as lancé une gomme. Il y a plein d'élèves qui lancent des bouts de gomme.
Pas de gomme.
Mohamed, il a été très courageux de nous le dire. C'est très gentil et c'est très courageux de ta part de partager ça avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui lancent? Il y a peut-être même des élèves qui reçoivent et qui lancent.
Moi, la dernière fois, quand j'avais eu un bout de gomme, je l'avais bah, du coup relancé à la table qui l'avait pas
donc,
lancé.
T'as reçu, t'as relancé.
Moi, à ma table, il y a Naomi. Bref, Yannis et tout, on reçoit toujours des bouts de gomme et du coup, bah, nous, on les relance. Mais
vous les relancez
systématiquement. En soi, c'est pas un problème pour nous. Fin...
Oui, j'ai bien compris que pour certains, c'est pas un problème, c'est un jeu. Donc finalement, écoutons-nous, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire-là?
Bon, on lance tous des gommes, on reçoit et on relance.
Vous relancez, ouais. Vous relancez.
Du coup, à chaque fois, c'est pareil.
Vous recevez, vous relancez, vous relancez, vous relancez, etc. C'est... Ah, il a dit un truc intéressant, Johan. Vas-y. Il va peut-être
c'est un cercle vicieux.
On entend tes élèves témoigner. Dire, bah moi j'ai jeté une gomme, moi je l'ai reçue et je l'ai relancée. Ça dénote un vrai climat de confiance entre toi et eux, entre eux et toi. Tu le mets sur quel compte, cette confiance établie?
Je le mets sur le compte de l'horizontalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a commencé à créer ces conseils de vie de la classe, je leur ai demandé si j'avais le droit de voter quand on votait au même titre qu'eux. Quand je leur ai posé des questions plus personnelles, mais moi j'ai exposé des choses plus personnelles de ma vie. Donc en fait, je le mets sur le compte d'un espèce de mini décalage par rapport à la position hiérarchique habituelle de l'enseignant, on va dire. Et moi, d'ailleurs, quand je leur ai dit à ce moment-là, pour moi, c'est le plus beau moment du conseil de vie de la classe d'aujourd'hui. Hein. C'est quand ceux qui jettent des gommes l'ont dit en pleine confiance, justement. Et je leur ai bien dit, là, il n'est pas question de punition ou quoi. On se parle, on se dit ce qui s'est passé, voilà. Et c'était qui tout double, ça aurait pu ne pas marcher. Si on reparle d'attention, là, qu'est-ce qui se passe quand vous passez votre heure de cours à vous prendre des bouts de gomme ou des stylos dans le coin de la tête? Et puis après, chercher à qui ou sur qui vous allez la relancer.
On n'est plus focus sur le tableau.
On n'est plus focus sur ce qu'on doit faire, sur l'activité qu'on doit faire, sur la prof, éventuellement, si elle donne des consignes.
Je veux bien que tu nous mettes des mots, que tu nous partages sur cette priorité que tu as faite dans ta pratique à prendre le temps de parler pour finalement libérer le cerveau et lui permettre d'apprendre.
C'est ça, c'est en fait... Ce que l'on croit être du temps perdu parfois, mais en fait, c'est tellement de temps gagné. Parce que je ne peux pas en être sûre à 100%, mais si on prend l'exemple de ces jets de projectiles dans la classe, je ne peux pas en être sûre à 100%. Mais je suis quand même quasiment persuadée que le problème va en fait se régler. Et ça, c'est du temps gagné pour tout le monde en réalité, pour tous les enseignants. Et c'est aussi une capacité de confiance dans ce qu'on fait dans le conseil de vie de classe, de confiance dans ce que le groupe est capable de faire ensemble, qui est très valorisante pour les élèves, en fait. Donc on a vu que ça, en fait, finalement, c'était contre-productif pour tout le monde. On est d'accord? Bon, bah maintenant qu'on a fait ce constat-là, on fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ce problème? Comment on règle la situation?
Non, du coup, tout le monde s'excuse.
Ok. Quelle solution vous mettez en place par rapport à ce problème? Il y a Yannis qui propose, première chose, on s'excuse tous. Ok. Moi, je vous dis, ok, très bien, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe au prochain cours de jeudi? Parce que si vous vous balancez des bouts de gomme plein la tête jeudi prochain, on va avoir la même conversation au prochain conseil de vie de la classe, on est d'accord? Ok.
Le premier qui lance une gomme, bon, on la jette et...
Voilà, on la jette.
On jette la gomme à la poubelle. Comme ça, il n'y aura plus de gomme.
C'est une solution pour vous pour que ça s'arrête?
C'est bon, bah, on arrête et c'est tout, on arrête.
C'est-à-dire, là, on fait une sorte de contrat, on se dit tous, ok, on arrête.
Oui, ça va. Ouais. 3 heures, on est sur ces trucs.
Ça vous va?
Oui.
Signer un contrat.
On se met comme ça?
Oui.
C'est la fin de la guerre de la gomme, donc.
Sinon, on n'a qu'à tous signer un contrat. Celui qui ne le respecte pas, bah, il a une punition.
Alors?
Oui.
C'est une proposition.
Oui.
Ta punition, c'est quoi?
1 ou 2 heures de colle.
Juste un mot dans le carnet.
Mais faire comme les oublis de carnet, au bout de 3 oublis, par exemple...
Non, mais t'imagines le travail de dingue pour les profs. Enfin, là, excuse-moi, je donne mon avis de prof. C'est-à-dire que si moi, en tant que prof principal, si à chaque fois qu'il y a un problème, je dois aller récolter le truc de l'engagement, du nombre de croix de chaque prof, vous allez me tuer. Je sais pas, je vais arrêter de dormir, Mohamed...
On écrit 100 fois, je m'excuse, je n'ai pas le droit de... Ou 50 fois.
Bienvenue dans les années 50.
C'est rigolo, non, de les voir revenir vers des punitions d'un autre âge, non?
Mais c'est tout le temps comme ça.
D'accord.
En fait, quoi qu'il se passe, quand il y a un dysfonctionnement quelconque, ils reviennent toujours vers le cadre et le cadre et le cadre et le cadre.
Qu'est-ce que tu notes comme changement chez les élèves, de façon générale, entre ce temps pédagogique où tu ne faisais pas de conseils et maintenant où tu fais des conseils, qu'est-ce que tu arrives à noter comme changement, soit très franc, soit subtil dans la dynamique de tes classes?
Ah bah, un esprit de groupe mais qui se tire vers le haut, beaucoup plus important. C'est surtout ça que je vois. Et moi, une capacité à être, pour moi en tout cas, totalement naturel avec eux. Sans abîmer le cadre, ça veut pas dire que je laisse tomber mes fonctionnements. Mais je suis plus naturelle, voilà, je suis moi.
Mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est souvent ce qui peut être reproché à l'éducation dite bienveillante et à cette horizontalité dont tu parlais. On n'abandonne pas ses missions d'enseignant ou d'enseignante. On n'abandonne pas sa posture, le fait d'être garant du cadre. Mais on insuffle quelque chose de l'ordre de l'humanité qui n'entache pas la relation pédagogique.
C'est quoi la punition?
Vas-y, donne une idée, toi. Donne.
Voilà, donnez des idées. Mohamed, attends, stop.
Mohamed, t'as été vexé. Pour exemple, dans ce qu'on a vécu aujourd'hui, quand Mohamed a dit ta gueule à un élève, en fait, j'aurais très bien pu faire semblant de ne pas l'entendre et faire continuer. Mais là, par contre, pour moi, c'était mon rôle de reposer le cadre, de non, en fait. Une personne lambda du conseil de vie de la classe à ce moment-là, non, là, je te repose le cadre. Non, tu vas pas insulter et tu vas trouver d'autres solutions. Mais pas ça, en tout cas.
Donc, et c'est valable pour tout le monde. T'es pas content, ça t'a vexé. Donc, du coup, ton réflexe, c'est d'être injurieux. D'accord? Dire quelque chose. Mais quelle est ta solution, en fait? Est-ce que tu as d'autres moyens de réagir que ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place, Mohamed? Aidez-le s'il n'arrive pas.
Il aurait pu lui demander pourquoi elle a dit ça.
Lui demander de se justifier.
Lui demander de s'excuser.
Alors moi, l'option à laquelle je pense, je vous la livre, c'est dire, écoute, ce que tu me dis, ça m'énerve, ça me vexe ou ça me blesse. Tu comprends? Tu partages ton ressenti. On en revient à notre histoire de punition dans notre contrat d'engagement. Chut. On y va? Attends, on se recentre. Alors, vous savez quoi? En fait, on va clore un peu le sujet et on va passer au vote.
Alors, une fois qu'on a discuté d'un sujet, il arrive parfois qu'on soit amené à voter une décision.
Donc, qui vote pour? On s'engage et si on respecte pas notre engagement, c'est-à-dire si on jette des gommes, tout simplement, on a 1 heure de colle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je vote pour. 7. Qui vote contre? Vous pouvez pas faire les deux, hein, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 14, ok. Donc, c'est la punition qui ne va pas. Qui vote pour qu'il y ait un engagement, mais sans punition? Qui vote pour cette proposition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 14. On tente comme ça?
Là, en l'occurrence, on a fait 2 votes. Est-ce qu'on crée un système d'engagement avec une punition s'il n'était pas respecté? Ça a été rejeté par le vote. Et donc, on a fini par voter un système d'engagement sans punition. Et on verra ce que ça donnera.
Alors moi, pour les quelques dernières minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on circule un peu dans l'espace ensemble. On va circuler tous en même temps et puis on va se croiser la main. Ah, je vous donne un exemple. Imaginons, moi j'ai un bout de gomme, tu fais bien ? Imaginons, j'ai un bout de gomme et je fais... Allez, je m'excuse. Problème. D'accord ? Donc vous excusez avec qui vous voulez, qui... Voilà. On fait ça ? Et on se regarde dans les yeux, c'est important. Naomi, je crois que toi aussi tu dois t'excuser. Ah, c'est bien.
J'imagine qu'entre les premières fois et maintenant, c'est plus la même chose, les conseils. Tu nous donnes à voir ce chemin que tu as parcouru ?
Alors, les premières fois, je ne sais pas si ça se perçoit, mais j'essaye de guider sans trop diriger. Mais les premières fois, je dirigeais plus que je ne guidais. Et pour certaines choses, j'avais tendance, pas à imposer, mais à faire cheminer le groupe vers ce vers quoi je voulais que ça amène. Ce que j'essaye de ne plus faire.
En t'écoutant avec tes élèves, on sent quelque chose de très fort qui est ta manière d'écouter les élèves. Est-ce que tu as fait un parcours par rapport à ça ? Quel a été ton chemin par rapport à cette sensibilité à l'écoute ?
Oh bah là là, 20 ans, oui, ça a changé. On ne peut pas dire autrement. Je pense que comme beaucoup d'enseignants, au début, je n'étais pas énormément dans l'écoute, en ce sens que j'avais besoin de contrôle. Et donc du coup, le contrôle me rassurait. Donc je voulais emmener mes élèves d'un point A à un point B. Coûte que coûte. Et puis en fait, assez rapidement quand même, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Enfin, ça marchait qu'avec quelques-uns. Du coup, ça m'a déjà fait évoluer sur mes pratiques pédagogiques, c'est-à-dire les envisager autrement en partant davantage d'eux. Et puis, s'est posée la question de l'impact de la vie et de la vie, du ressenti des élèves sur leur capacité à être en classe. Et donc, forcément, quand on commence à se poser cette question, c'est difficile. Enfin, c'est un large débat, hein, parce qu'il y a plein d'enseignants qui disent les problèmes restent à la porte de la classe. Moi, c'est pas ce que je pense. Et donc, du coup, j'essaye à ma petite mesure d'en faire quelque chose.
Bien. Vous n'avez jamais jeté de gomme. Vous avez reçu des excuses. On se réinstalle. Est-ce que au moins on repart à zéro, au moins sur ce qu'on ressent.
Oui.
Moins énervé. On n'a pas eu le temps de traiter les bonheurs. On avait dit on finirait par la fin, mais c'est pas grave. On n'a pas eu le temps, mais promis vendredi. Comme on fera le point, et ben vendredi on prendra un de nos petits bonheurs de la boîte et on en parlera, d'accord ? Comme ça, en fait, on finira la semaine sur du positif.
Tu choisirais quel animal pour incarner ce que tu es en tant qu'enseignante lors de ces conseils de vie de classe ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Oh là là, un animal. Je sais pas, un truc genre koala, panda.
Un truc qui, comme ça, là, qui entoure.
Mais ouais, qui entoure et qui est doux. Enfin, qui essaye de l'être.
Ce que je veux là, c'est que vous remettiez les tables et les chaises en place.
Oui,
remets les tables et les chaises. Attends, après, parce que je les ai mis de côté, t'inquiète. Non, il y a encore une heure.
Ce serait quoi les premiers pas que tu conseillerais aux enseignants et enseignantes qui souhaiteraient se lancer dans cette pratique ?
Ce serait de structurer un peu le truc. Voilà, en ayant vraiment la boîte avec les questions, enfin les propositions, les problèmes, les petits bonheurs ou les félicitations, de telle manière que ça ouvre pas tout d'un coup un espace trop grand qu'on n'arrive plus à gérer parce que c'est le début et qu'on peut être dépassé ou par les propos des élèves ou par les situations ou par la manière de gérer. Et puis instaurer dès le départ les règles de fonctionnement de la parole. Ce qu'on s'est dit, c'était que pour avoir la parole, il fallait avoir en main le cerveau de la parole. Que celui qui avait le cerveau de la parole ensuite le passait à qui il le souhaitait et ceux qui voulaient postuler à avoir la parole, il fallait qu'il lève la main. Que moi, je devais aussi le demander, ce que je respecte pas toujours d'ailleurs. Et c'est à peu près tout.
Et allez, pour terminer, un conseil de sensei, de sage, pour les enseignants qui nous écoutent.
N'ayez pas peur de la liberté de parole des élèves. En fait, ça va pas forcément vous faire dériver vers des trucs
insécurisant.
Merci Peggy.
Merci.
C'était le 20e et dernier épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acmé Productions. On vous retrouve en juillet pour un hors-série spécial rentrée et en septembre avec la saison 3. À très vite!